monde au féminin. Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission interactive hebdomadaire de VO Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge, pour vous servir, et avec moi dans le studio, Édouard Abba, médiateur au tribunal de première instance de Washington DC, président du conseil municipal de Yatesville dans le Maryland aux États-Unis, et vous êtes originaire de Guinée. Un grand merci Édouard d'être avec nous.
Merci à vous Nathalie.
Alors, vous êtes président du conseil municipal de Yatesville depuis 2015 dans le Maryland, où vous vivez avec votre épouse et vos deux fils. Vous avez été élu en 2013 pour représenter le 4e arrondissement et vous avez été réélu en 2017. Vous êtes un fervent partisan et promoteur de l'engagement civique, inclusion sociale, la transparence et la responsabilité. Vous êtes récipiendaire du prix Mandela King 2013 pour votre rôle pionnier dans la communauté de la diaspora africaine. Votre profession, vous êtes médiateur à la division multidor de règlement des différends familiaux au tribunal d'instance de Washington DC et vous avez une maîtrise en analyse et résolution de conflits. Vous êtes diplômé en philosophie et théologie de l'université pontificale Urbaniana à Rome. Merci beaucoup encore une fois Édouard d'être avec nous. Alors quel espace pour les jeunes dans les villes américaines? Quels sont leurs besoins et quel type de réponse apporter? Comment favoriser leur épanouissement, leur bien-être et surtout prévenir la délinquance? C'est des questions un petit peu qu'on va se poser avec vous dans cette émission. Alors, vous avez déjà lancé un projet pour la création d'une maison des jeunes dans votre ville ou dans votre arrondissement. Vous pourriez nous parler un petit peu de ce projet? Est-ce que déjà c'est très courant aux États-Unis, une maison des jeunes?
Bon, ça dépend. Ce n'est pas tout à fait courant de trouver des maisons des jeunes spécifiquement dédiées aux adolescents. Souvent, ce que vous trouvez, c'est des centres culturels, là où tout le monde y a accès. Les jeunes, les vieux, les personnes âgées, n'importe qui peut avoir accès. Mais dans ce cas spécifique, nous sommes en train de nous concentrer sur les adolescents, donc les jeunes qui sont, on dirait chez nous, au collège et puis au lycée. Donc c'est les trouver un espace où ils peuvent se retrouver pendant toute la semaine après les cours.
Il faut préciser que votre commune a 18 000 habitants environ, c'est cela?
Tout à fait.
Et donc votre projet en fait, est-ce que vous avez fait des enquêtes pour savoir un petit peu si vraiment c'était recherché par la jeunesse?
Oui, tout à fait. L'idée même est venue de la jeunesse. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à Hyattsville, nous avons mis en place, il y a 3 ans de cela, un comité consultatif des adolescents. Mm-hmm. Donc, ils ont le rôle de se réunir, de pencher sur leurs problèmes ou bien leurs besoins et de faire des recommandations au conseil. Donc, c'est lors de leur délibération qu'ils ont donc fait la recommandation qu'il y ait un centre culturel où ils pourraient se retrouver, un centre des jeunes. Donc c'est dans ce cadre que nous avons pris le dossier en main et nous avons cette année mis de l'argent dans le budget pour que ce projet puisse voir jour.
Conseil consultatif des adolescents, donc c'est pas un mini conseil communal des adolescents, c'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir seulement de proposer, mais ils n'ont pas de pouvoir décisionnel.
Tout à fait.
J'ai vu quelque chose de formidable. Vous avez également, c'est le maire qui en fait est une dame.
Oui.
Candace Hollingsworth, la commune s'efforce d'engager positivement les jeunes de Yatesville, comme en témoigne la récente prolongation du droit de vote aux élections municipales pour les 16 et 17 ans. C'est courant ça aux États-Unis?
C'est un peu rare dans les municipalités aux États-Unis. Bon, vous savez qu'au niveau fédéral, ces jeunes, ces adolescents de 16 et 17 ans n'ont pas le droit de vote. Le droit de vote, c'est à partir de 18 ans.
Oui.
Mais ici, dans le Maryland, nous avons au moins, disons, au jour d'aujourd'hui, il y en a 7 municipalités qui ont pris cette décision d'élargir, disons, ce privilège aux jeunes de 16 et 17 ans. Et à Hyattsville, il y a 2 ans de cela que nous avons pris l'engagement que ça soit le cas. Donc ça va, c'est une façon de faire intéresser les adolescents à la cause publique.
C'est dans la presse.
Une femme d'affaires de 46 ans, Roy Malik Lowe, a été élue le 12 mai 2018 maire de Banjul, devenant la première femme à la tête d'une municipalité de Gambie. C'est la fille de l'ancien maire de Banjul. Alors donc, elle a commencé sa carrière comme réceptionniste d'hôtel avant de se lancer dans les affaires, puis d'étudier les relations internationales en Suède. Elle est la seconde femme à accéder à la mairie d'une capitale d'Afrique de l'Ouest depuis le début de l'année, après la victoire en mars d'Ivo Naki Sawyer dans la capitale sierra-léonaise Freetown. Entre avril et mai, en Somalie, une jeune femme de 30 ans accusée de polyandrie a été lapidée par une dizaine d'islamistes chebab en cagoulé. Le crime aurait été commis dans le district de Sablal, dans la région de la Basse Chabelle, selon des témoins. Elle était mère de 8 enfants. Ce n'est pas la première fois que les chebab commettent de tels actes. On le sait, une autre jeune femme de 33 ans avait été également lapidée en 2014. Et l'on se souviendra surtout, entre autres, de la lapidation d'une enfant de 13 ans accusée d'adultère alors qu'elle avait été violée. Le crime s'était produit le 28 octobre 2008 à Kishmayo par des chebabs devant des centaines d'hommes islamistes. Edouard, une petite réaction sur la dernière nouvelle des femmes qui se font lapider comme ça dans certains pays par une bande de rebelles sans qu'on ait une déclaration de qui que ce soit, des Nations Unies ou autre. Quel effet ça vous fait tout cela? Parce que on pensait que c'était terminé, mais finalement c'est pas fini en fait, ça continue.
Oui, Nathalie, vous avez tout à fait raison. C'est des événements qui sont choquants, qu'on ne devrait pas cautionner à n'importe quel endroit, dans n'importe quel pays. Mais ce que vous constatez chez nous souvent, c'est que vous avez des semblants d'État. L'état de droit n'existe pas dans le pays, la justice ne fait pas son travail. Du coup, la gente féminine est marginalisée dans cet effet. Donc chaque fois qu'il y a quelque chose, elle est considérée comme, disons, coupable, tandis que les coupables, les vrais coupables sont ailleurs seulement qu'on doit les donner la voix et l'État doit faire son travail pour traduire ces coupables devant la justice.
Alors on va parler de la police de proximité en faveur des jeunes, parce que ça existe et vous-même, vous avez un programme comme cela dans votre commune, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Nous avons pensé qu'il faut commencer à travailler sur les rapports entre les policiers, disons les agents de police et les jeunes, parce que souvent, si il y a cette peur ou bien cette méfiance entre les deux couches, c'est pas bien pour la suite, surtout dans le contexte actuel des États-Unis où il y a un débat sur la race et les agents de l'ordre. Donc nous avons décidé qu'il faut créer des programmes où les agents de l'ordre peuvent interagir avec les jeunes. Donc c'est dans ce cadre qu'au niveau de HSV, vous avez un sergent de la police qui a ce programme, disons, d'après-midi où elle se retrouve avec les jeunes pour blaguer, jouer. Et,
ah bon, c'est récréatif. Hein.
Tout à fait. C'est toutes les semaines pendant, disons, l'année scolaire. Ils se retrouvent trois fois.
Et c'est avec des enfants de quel âge en général?
Toujours les enfants de, disons, du collège et du lycée à partir de.
Donc déjà d'un certain âge.
Oui.
Vous avez déjà assisté à ce genre de programme, oui?
Oui, oui.
Décrivez-nous, parce que ça a l'air vraiment
donc,
sympa.
Donc, il y a des moments qui sont structurés. La plupart du temps aussi, elle est dans le livre court d'interagir entre eux. Donc, c'est une façon d'empêcher ou bien d'éviter aux enfants d'aller se promener un peu partout dans le quartier, mais au moins, ils sont dans un cadre bien contrôlé. Donc, vous avez, il y en a qui sont en train de jouer au Scrabble. Vous pouvez voir d'autres qui ont des clubs de lecture qui s'occupent uniquement de ça. Il y en a qui jouent au basketball, il y en a qui jouent au football américain.
Elle est déjà là, la maison des jeunes. Elle est tenue par la police, la police de Yatesville.
Quelque part, donc nous voulons élargir ce D'accord. programme parce que pour l'instant, nous utilisons un petit centre dans un de nos parcs, là où ils se retrouvent. Parallèlement à la maison des jeunes que nous voulons construire, ce programme va continuer d'exister aussi parce que la maison des jeunes est plutôt dans un endroit qui est pas loin, disons, d'un centre commercial. Donc les enfants, les jeunes pourront être là, mais il n'y a pas d'espace vert. Tandis que ce programme d'interaction avec la police, c'est dans un parc et il y a l'espace vert, il y a tout ce qu'il faut.
Parole de femme.
Thank you. La plupart des analystes ont convenu que l'ex-présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, avait réussi à placer l'égalité des genres au cœur de l'agenda de l'organisation. Mais au sein même de la Commission, on parle de discrimination basée sur le genre, selon des notes internes adressées à l'actuel président Moussa Faki Mahamat, obtenues par le Mail and Guardian. Un mémo signé par des femmes en janvier 2018 affirme que des postes importants sont régulièrement refusés à des femmes expérimentées, principalement au sein du département paix et sécurité. Il y a eu une sortie systématique des femmes du plus haut calibre de la commission. Cela a été une tendance constante. L'on se serait même débarrassé des femmes âgées, selon les témoignages de deux responsables cités par le journal en ligne. Édouard, vous avez parlé des grands espaces, les espaces verts. Quels sont les besoins de la jeunesse, surtout des adolescents? Est-ce qu'on peut être concret? Est-ce qu'on peut mettre des mots bien particuliers sur ce qu'ils recherchent, sur ce dont ils ont besoin dans leur vie sociale en dehors de la famille?
Nous pouvons. Il faut constater que ici aux États-Unis, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les parents. Vous avez le coût des activités, disons, extracurriculaires de l'école qui sont exorbitants. Donc, certains parents n'ont pas les moyens de supporter cela. Mais aussi la garde des enfants, si vous n'en avez pas les moyens. Donc, ces enfants, souvent, ils se retrouvent à vaquer à leurs besoins. Mais ce que nous envisageons à Hayesville, c'est justement créer ce contact continu entre les adolescents. Donc, quand ils quittent l'école, ils peuvent toujours rester entre amis et apprendre non seulement à faire leurs devoirs, à lire, à faire les maths, mais aussi une partie de la programmation du centre des jeunes sera aussi les enseigner l'informatique et les apprendre aussi à construire leur CV et autre chose. Donc les préparer en quelque sorte pour les prochaines étapes, pas seulement les jouets et autres distractions qui peuvent être là, qui les aident à consolider leurs liens sociaux, mais aussi en nous pensant à la formation intellectuelle de ces enfants.
Vous avez des chiffres sur le taux de délinquance dans votre ville ou pas, non?
Vous savez, ici, la décentralisation est telle qu'il y a différents niveaux où nous pouvons agir. Mm-hmm. Donc, en ce qui concerne l'école, ça c'est au niveau du comté qui contrôle ça. En ce qui concerne donc la délinquance juvénile, si vous le voulez ainsi dans le cadre de l'éducation, c'est plutôt le taux d'absence dans les écoles. Et à ce niveau, selon le rapport que nous avons du comté, c'est que en 2017, vous avez au niveau, je pense que j'ai les stats ici, au niveau du lycée, par exemple, en 2017, il y avait 26% de taux d'absence.
Au niveau du lycée?
Au niveau du lycée.
Et c'est beaucoup, hein?
C'est beaucoup, c'est très élevé. Je pense qu'il y a lieu de travailler là-dessus. Mais comme on l'a dit, du contenu de la juridiction que nous avons, nous ne sommes pas... Nous n'avons pas pouvoir sur l'éducation proprement dit. C'est pourquoi nous essayons de mettre en place des moyens pour pouvoir encourager les enfants à aller à l'école.
Est-ce qu'on sait pourquoi ils sont absents?
Souvent, ça a trait avec, disons, les contraintes familiales. Soit les parents ne sont pas là pour déposer les enfants à l'école ou bien ils doivent sortir très tôt.
Mais c'est plus facile de sécher les cours au lycée qu'en primaire ou secondaire.
Tout à fait.
On a tous connu ça. On l'a tous fait. C'est pas l'exemple à donner,
mais
c'est beaucoup plus facile parce qu'il faut dire qu'aux États-Unis, c'est très sérieux. Je sais qu'en France, de mon époque, c'était très facile. Mais aux États-Unis, de notre époque, aujourd'hui, c'est quelque chose à ne pas faire.
Et tout à fait. Et si vous prenez, par exemple, au niveau du collège, le taux d'absence était de 11%.
Là, c'est payant, donc peut-être que le jeune est plus sensibilisé pour poursuivre sérieusement ses études.
Tout à fait.
Et alors, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Quand vous êtes, par exemple, en conseil communal et que vous discutez sur de tels sujets, quel genre d'idées vous pouvez apporter par rapport à ça?
Alors, par rapport à ça, si vous prenez, par exemple, au niveau du lycée, ce que vous avez au niveau des lycées, c'est que nous avons ce qu'on appelle l'officier de ressources au niveau des écoles. Donc, c'est un officier de police. Leur travail, non seulement d'assurer la paix sociale, la quiétude au niveau de l'école, mais aussi s'assurer s'assurer que les enfants ne sont pas en train de chômer les cours. Donc nous avons cet aspect qui est là et la maison des jeunes que nous voulons envisager aussi va tenir compte de ça. Donc comme certaines conditions, tu dois avoir un bon record de participation à l'école pour pouvoir bénéficier à l'accès à ce centre de façon gratuite.
Si jeunesse pouvait.
Si The Project a lancé la NBA Academy Africa Girls, ce camp de 24 filles issues de 8 pays africains a vu la participation d'anciennes joueuses de l'équipe féminine de la NBA comme la Mozambicaine Machangwana, la Malienne Maïga et la Sénégalaise Astou. Donc c'était au Sénégal et voici un reportage de Seydina Abagué.
C'est un grand rêve pour moi. Je suis vraiment heureuse de faire partie de ce camp car ça me permet de m'améliorer et d'apprendre de nouveaux trucs.
Cette jeune Sénégalaise du nom de Ndeysayna Boukandoï savoure l'instant présent. Entourée de stars de la NBA et de la WNBA, les filles de la première promotion de la NBA Academy en Afrique sont sur leur nuage. Venue de la Côte d'Ivoire, Déborah trouve l'atmosphère amicale. Elle espère représenter dignement son pays et aller au bout de l'aventure.
Je suis excitée, je suis contente. Ce sont des filles cool. Avec elles, il n'y a pas trop de chamaillement. Ça cause, on se prend comme des sœurs. Et puis, ce qui me touche le plus, c'est que je suis la seule Ivoirienne ici. Ça m'a vraiment fait plaisir parce que c'est comme si je me sentais distinguée. C'est une faveur que j'ai d'être ici. Et cette faveur-là, je veux vraiment la saisir pour montrer qu'ils ont eu raison de me choisir.
L'objectif de ces jeunes filles est d'atteindre la prestigieuse WNBA. Pour y arriver, elles bénéficient de l'encadrement de plusieurs stars, parmi lesquelles Astou Ndiaye, ancienne joueuse de la WNBA. Elle conseille aux filles de ne pas se laisser dominer par l'enjeu.
La WNBA, c'est une trajectoire. C'est pas un truc qui est automatique. Mais que là, il y a le potentiel, absolument. C'est pourquoi la NBA est en train d'investir ici. C'est pas une chose qui, une première qui s'arrête. Elle va être pérennisée. Donc, que les filles rêvent grand et être prêtes à saisir les opportunités quand elles se présentent.
Un an après le lancement de son académie en Afrique, la NBA veut continuer à toucher un grand nombre de jeunes Africains. Amadou Galofal, vice-président de la NBA pour l'Afrique, estime que leur engagement dépasse le cadre sportif.
Le basket féminin est aussi très populaire dans beaucoup de pays en Afrique et on ne peut pas prétendre développer le sport et augmenter le nombre de participants en ignorant le genre féminin. Mais aussi, pour faire un crochet avec notre mission et ce qui a été la vision à l'origine de la création de CID, c'était d'essayer par le biais du sport d'impacter notre jeunesse.
Depuis octobre 2016, des NBA Academies ont été lancées en Australie, en Chine, en Inde, au Mexique et au Sénégal. À Dakar, Seydina Abagué pour VOA Afrique.
Et oui, et si la jeunesse pouvait?
Vous écoutez Le Monde au féminin avec comme invité Edouard Rabat, président de conseil municipal ici aux États-Unis. Je voudrais apporter des chiffres pour que on ait vraiment une idée de ce que ça coûte tout ça. En 2014, le Maryland a dépensé 543 millions de dollars pour des services de protection de l'enfance. C'est incroyable. Il y a combien d'habitants dans le Maryland? Peut-être 6 millions ou quelque chose comme ça. Donc 543 millions seulement pour le service de protection de l'enfance que vous connaissez très bien à travers votre propre travail. De ce montant, 139 millions étaient des fonds fédéraux et plus de 404 millions provenaient de fonds publics et locaux de l'État. C'est la cherté des ressources humaines pour protéger l'enfance en quelque sorte. Alors en fait, on met beaucoup d'argent pour éviter le pire, pour protéger l'enfance, parce qu'il y a des problèmes sociaux dans notre société, faut le dire. Et du coup, tout cet argent-là, on peut même pas le mettre dans les activités ou en tout cas les choses beaucoup plus récréatives.
Tout à fait, vous avez raison. Et ce que vous allez constater, c'est que la plupart de ces fonds sont utilisés pour des raisons de, disons, de renforcer la loi qui est là. Donc, il n'y a pas de prévention. Disons, créons des programmes qui pourront éviter aux parents qui se retrouvent dans des situations pareilles parce qu'ils ont abusé de leur enfant, ou bien parce que l'enfant n'a pas été à l'école, ou bien parce qu'il y a ceci, il y a cela. Mais ce que nous pensons que ce serait utile, c'est qu'il faut investir dans la prévention, notamment en créant ces avenues.
Concrètement, qu'est-ce que ça pourrait être?
Ça pourrait être d'assurer que ces enfants, la plupart des parents qui n'ont pas les moyens, puissent envoyer leurs enfants dans des garderies publiques gratuites. Ça évite des problèmes aux parents parce que ce que vous avez, c'est que si le parent n'a pas les moyens d'envoyer l'enfant à la garderie et que l'enfant reste à la maison sans supervision, on appelle les services sociaux contre vous. Et ça cause déjà un problème. Donc on ne tient pas compte de quelles sont les raisons pourquoi vous avez agi de la sorte. Mais on pense directement à appliquer la loi. Et si on agit contre vous, ça rentre dans vos records, vous n'avez pas, du coup, l'enfant va se retrouver dans le système, disons, on appelle le foster care system, de l'adoption, et vous ne serez pas là, et l'enfant-là n'aura pas, disons, l'amour familial ou bien l'apport familial qui est là pour grandir. Donc ça va de problème en problème.
On a un taux de pauvreté qui est assez impressionnant. Je m'y perds un peu dans toutes mes feuilles, mais je l'ai noté. Encore une fois, on va dire pour les États-Unis, un taux de pauvreté qui est choquant. Et par exemple, dans le Maryland, on n'a que 4% de chômage. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais avec des salaires médiocres et qui ne peuvent même pas payer des études correctes pour leurs enfants ou même leur apporter à manger. Parce qu'il faut le voir, le rapport là que j'ai cité tout à l'heure, c'est extraordinaire, les chiffres.
Et là, vous avez raison. Mais prenez, par exemple, disons, quelqu'un qui travaille et qui a le salaire minimum, vous avez peut-être un 10$ à l'heure et vous travaillez les 40 heures. En fin de mois, vous vous retrouvez peut-être avec un chèque de 1 500$. 1 500$, si vous avez un enfant qui doit aller à la garderie, cette garderie dans notre
région. Non, mais il y a des salaires beaucoup plus bas que ça encore.
Il y en a plus bas que ça.
Parce que le SMIC dont vous parlez, il n'est pas en vigueur partout. Il est différent en fonction des États. Il y a des États qui effectivement augmentent leur SMIC. Donc il y a vraiment des salaires très bas.
Il y en a peut-être qui touchent les 700$ par mois. Mais dans notre région, vous prenez ça et vous avez un enfant qui doit aller à la garderie, vous devez payer. Ici, le minimum que vous allez trouver, peut-être c'est un 600 ou 700$ pour l'enfant à la garderie par mois. Vous dépensez ça. Le loyer, vous devez payer. Vous devez payer les soins médicaux, vous devez payer tout ce qui suit comme manger ou bien transport. Du coup, vous vous retrouvez pauvre, malgré que le taux de chômage est très bas, comme vous l'avez dit, 4%. Mais le revenu n'est pas là pour pouvoir vivre à un niveau normal.
Édouard, on termine par une note positive, en particulier dans votre commune. La jeunesse, comment vous la voyez dans les 10-20 ans à venir? Est-ce que, par exemple, il y a des projets aussi pour la création d'emplois, pour vraiment les investir un petit peu plus dans la vie de la commune, mais au niveau professionnel aussi?
Nous voyons une jeunesse engagée, une jeunesse instruite, une jeunesse éduquée, une jeunesse avisée. C'est justement dans ce cadre que nous avons décidé de les faire voter à partir de 16 ans, de sorte qu'ils s'intéressent à la chose publique, mais aussi qui peuvent se présenter comme des candidats à ces positions. Comme je l'ai dit, le centre, la maison des jeunes, ce ne sera pas seulement pour la récréation, mais l'étude, se construire des CV, pouvoir postuler au niveau des universités, pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Et aussi, nous avons des programmes, disons, de stage au niveau de la ville, qui sont ouverts à ces jeunes. Et souvent, pendant l'été, il y a des embauches aussi pour ces jeunes. Tout juste pour les intéresser à la chaîne. Parce que il y a une réflexion qui se mène aujourd'hui au niveau des municipalités du Maryland, c'est qu'il faut relever le défi en ce qui concerne le personnel des municipalités. C'est un personnel qui tend à être âgé, les gens ne s'intéressent pas trop, mais pourtant c'est...
Et puis l'augmenter en nombre peut-être aussi?
On l'augmente en nombre, mais aussi rajeunir ce personnel, parce que beaucoup ne s'intéressent pas à ce personnel. Pourtant, c'est un personnel qui a de l'impact sur la population. Donc nous voulons faire intéresser les jeunes à cet aspect, le faire exposer à la chose publique.
C'est la proximité tout ça. C'est un travail de proximité que vous faites.
Tout à fait.
Merci beaucoup Édouard Abar. Un grand merci pour votre participation. Un grand merci à Sims Loumami et à Wagner Robert à la production. À très bientôt à tous. Au revoir.
Arrête.